Le 7 mai 2018, on vous souhaite le plus cordial des bienvenus à l'émission Les Voix de Service Magazine, qui a comme mission, je vous le rappelle, de vous faire la lecture d'articles de magazines et de blogs de toutes sortes, en fait. Et pour m'aider à le faire, on a à mes côtés, juste à côté, et j'ai le privilège de lui parler aussi ce matin, encore une fois, comme à tous les lundis, à peu près, hein, à peu près. Serge?
Ouais.
C'est Serge Hamelin. Alors, Serge, vous allez nous parler?
Oui, je vais vous parler.
Nous parler et nous lire.
Et vous lire. Ah, en même temps, les deux.
Oui.
C'est bon?
Tant mieux.
OK.
On y va. De quoi vous allez nous parler?
Ah bon?
Oui, parce que c'est à vous.
Ah bon, d'accord. Alors, moi, je vais vous parler. Je suis toujours dans la revue Protégez-vous. J'adore ça parce que je sais ce qui est bon et je sais ce qui n'est pas bon. D'après leur test. Alors, ils ont testé, la semaine dernière, j'avais parlé de frigo. OK?
Oui.
Et là, je vais vous parler de cuisinière.
Ah!
Oui.
Avec
pas de madame, là. Pas de madame, pas de madame cuisinière.
Non, non, non.
Un appareil.
Un appareil.
Et puis après ça, si on a le temps, je vais vous parler des fiabilités des lave-vaisselle. Et puis ensuite de ça, je vais vous parler de crème.
Ah, la crème.
Pour la figure.
Ah,
laquelle utiliser?
Pour avoir un beau visage.
Oui, mais aussi pour ne pas se... Parce qu'on a des problèmes avec les produits qu'il y a dans ces crèmes-là. Il y a 389 sortes de crèmes seulement et il y en a 29 qui n'ont pas de produit qui est dangereux pour la peau.
Ah, quand même, j'ai bien hâte d'entendre ça.
Oui, ouais. C'est bon.
Et de mon côté, j'ai deux articles. Un que j'ai retrouvé dans l'actualité du mois de mai.
Oui.
S'intitule, en fait, c'est de nous parler de la rougeole.
La rougeole.
Oui, ça fait longtemps qu'on en a entendu parler. Hein,
oui, j'étais tout petit la dernière fois que j'en ai entendu parler.
Moi aussi, avec les fameux boutons qui arrivaient.
Ça n'avait pas d'allure. C'était la mode dans ce temps-là.
Oui,
la
tout
rougeole.
À fait. Oui.
Il fallait rester dans le noir.
On était...
Oui, la lumière, c'était dangereux.
À cette époque-là.
Oui, à cette époque-là.
À notre époque, à nous.
Oh, mais ça fait pas longtemps.
Ça fait pas si longtemps. Et on a aussi, j'ai aussi un deuxième article sur la santé mentale, tiens. La vie après la tempête, c'est un livre qui a été écrit par une auteure. Je vous en parlerai dans quelques instants. Et est-ce que M. Roger est installé?
Et il est là.
Il est là.
Court bulletin de circulation. Il décongestionne un peu sur la 116.
Ah, vous avez bien
mais
raison.
Mais c'est long.
Oui, j'arrive du Nord, moi, puis je peux vous dire que c'était congestionné ce matin.
Oui, ah oui.
Oui, 2h15 pour me rendre. Mais bon, en fait,
bravo.
C'est pas plus grave que ça.
On est là. On est un peu essoufflé.
Oui. Alors, Roger, vous avez le temps de nous parler de vos deux articles.
Oui, oui. Alors, un premier article qui va traiter d'Internet. Est-ce qu'il faut nationaliser Internet ou le laisser aux grands approvisionneurs d'ondes? Et le deuxième sujet, c'est Montréal 1, Toronto 0.
Oh, on a gagné.
Oui.
Bien hâte d'entendre ça. On vous revient dans quelques instants avec Serge.
Ah oui?
Alors, Monsieur Serge, on débute avec vous ce matin.
Bon, alors, vous voulez vous faire un bon petit déjeuner?
Oui.
OK. Mon Dieu, votre poêle ne fonctionne plus.
Ah.
Non. Il va falloir aller en acheter un autre. Ah non. Hey, c'est pas donné, hein?
Non.
Les cuisinières. Ils ont fait des tests. Protégez-vous a fait des tests sur les cuisinières. C'est un texte qui a été écrit par Martin Dionne. Alors, que ce soit pour la cuisson au four ou les sautés à feu vif, nous avons déniché des appareils qui satisferont le chef de la maison. Une cuisinière efficace doit être munie d'une surface de cuisson capable de chauffer, ça c'est mieux, hein? c'est mieux, que ce soit capable de chauffer, et de se refroidir rapidement. Elle doit aussi offrir un bon contrôle à basse température, et son four est censé produire une température précise, stable et uniforme.
Ah.
Sinon, les gâteaux risquent de lever et de descendre. Et griller les aliments de manière égale. Alors, la surface de cuisson. Il y a trois types principaux de cuisinières. À vitrocéramique, à induction et au gaz, qui coexistent sur le marché. et chacun d'eux possède ses forces. La plaque en vitrocéramique est la surface de cuisson la plus vendue actuellement à cause de son prix raisonnable. Et ses cuisinières, ainsi que celles à induction, sont toutefois sujettes aux bris, comptées de 300 à 1000 $ pour remplacer une plaque endommagée. Les modèles à induction sont pourvus de bobines produisant un champ magnétique qui traverse le verre et se transforme en chaleur au contact des casseroles. Et ces appareils sont éco-énergétiques, efficaces et sécuritaires, car ils chauffent environ 30 % plus rapidement que les autres et se refroidissent en à peine 20 minutes, contre 40 pour les vitrocéramiques et 30 pour les cuisinières au gaz. Les appareils au gaz se branchent au réseau existant ou à une bonbonne de propane de 50 gallons ou plus. Et dans ce cas, un régulateur de pression est nécessaire. Les cuisiniers qui veulent changer rapidement l'intensité de la cuisson apprécient les brûleurs au gaz, mais contrairement à la croyance populaire, ces cuisinières ne chauffent pas plus vite que celles à induction. La plupart des appareils à vitrocéramique et à induction sont équipés d'un rond mijoteur ou réchaud qui maintient les plats à basse température. Et les modèles à induction performent mieux à ce chapitre que les autres types d'appareils. Le four, maintenant. Notre test tient compte de la capacité des fours à maintenir une température précise, stable et uniforme. Principal constat, les cuisinières électriques mettent en moyenne 15 minutes pour atteindre 150 degrés centigrades, alors que les fours au gaz demandent seulement 9 minutes. Ça me semblait aussi. Par contre, la fonction grill de ces derniers performe moins bien car la chaleur provient d'un petit brûleur très chaud plutôt que d'un grand élément électrique. Ainsi, les aliments ne sont pas gratinés uniformément à leur sortie du four. Tous les appareils que nous avons testés, à l'exception des modèles à moins de 900 $, sont munis du mode convection qui permet une bonne distribution de la chaleur et une cuisson uniforme. Vous vous demandez ce que différencie la convection traditionnelle de la convection véritable ou européenne? Vous vous êtes posé cette question? La première se caractérise par un ventilateur placé au fond du four qui sert à bien répartir la chaleur provenant des éléments situés en haut et au bas du four. La deuxième comporte en plus un élément chauffant circulaire situé près du ventilateur au fond du four. Et notre test montre toutefois que le type de convection n'influence pas les performances des cuisinières. Alors, des options qui sont hot maintenant. Les cuisinières encastrables sont de plus en plus abordables, surtout dans le cas des modèles en vitrocéramique. Leur bouton de commande, situé à l'avant plutôt qu'à l'arrière, leur donne fière allure. Les fours doubles chauffent rapidement et peuvent fonctionner à des températures différentes. Toutefois, comme ils sont plus petits que les fours traditionnels, vous pourriez trouver difficile d'y mettre de gros aliments comme une dinde entière. La plupart des surfaces en vitrocéramique sont pourvues d'un ou deux éléments expansibles qui permettent d'adapter la surface de cuisson à la taille de votre casserole. Ça, je ne le savais pas. Expansible. Le pont, qui reste rare, offre la possibilité de combiner deux éléments utiles pour accueillir des marmites de très grande dimension. Et la fonction verrouillage des commandes empêche les enfants de démarrer le four ou d'allumer les surfaces de cuisson faciles d'accès. Et des modèles encastrables. Alors, on est au courant un petit peu comment ça fonctionne maintenant. Une cuisinière, c'est bon? Alors, quels sont les meilleurs? Alors, nous avons ici le nombre d'éléments expansibles, l'élément réchaud, le pont, le four double, modèle encastrable, des cotes énerguides, taux de fiabilité de la marque, surface de cuisson, pour facilité d'utilisation et finalement la note globale de tout ce que je viens de vous dire. Alors donc, laquelle est la meilleure? Oplaï.
Ça semble compliqué.
Oplaï. Alors la KitchenAid. Oui. D'accord? Je ne vous donnerai pas le code là parce qu'on ne l'achètera pas. Allez, 3450 $.
Ah, quand même.
Ah, quand même, hein?
Oui.
Oui, on est loin du poil à 400 hein?
Oui. À se reposer.
Pour rajouter 3000 de plus pour se faire chauffer un steak. Oups, là. Alors, elle est cotée à 90.
Ah, quand même.
Oui, quand même. Bon. Ça, c'est les modèles à induction. Je vais vous donner la moins chère des modèles à induction. Ça va?
Mm-hmm.
Les autres sont... Et les meilleurs, là, les vraiment les meilleurs, là, avec une note de 85, c'est la General Electric Profile, qui est à 1900 OK. Ça, ensuite, il y a avec surface en vitrocéramique. C'est la à 900 Bon, alors c'est la General Electric. OK. Donc, on est dans le pas mal dans le General Electric,
ouais,
ce qui est
même.
Moins cher.
C'est
ouais.
Les meilleurs, ça.
Puis au gaz, à 1500 $ c'est la marque Frigidaire.
Ah!
Alors, trompez-vous pas, si vous allez mettre des choses dans le Frigidaire, c'est mettez pas ça dans le poêle. Non!
Donc, on a quand même le choix avec, avec ce que vous nous avez donné, en fait.
Oui.
Et on peut aller voir l'article au complet.
Oui, dans la revue Protégez-vous.
Protégez-vous du mois de...
Du mois de mars 2018.
Mars 2018.
Ouais.
Quand même. On vous revient dans quelques instants avec Roger. Merci, Serge. Alors, dans la Ligue nationale de hockey, Toronto-Montréal, mais
oui.
On ne parle pas de ça, là, ce matin.
1-0, mais c'est la Ligue nationale de l'immobilier.
De l'immobilier?
Oui,
ah, quand même.
Montréal est en avance.
D'accord.
C'est un texte de Pierre Fortin.
Mm-hmm.
Vivre au Québec coûte moins cher que vivre en Ontario. Un panier de consommation représentatif de 1000 $ à Toronto coûte 860 $ à Montréal et 840 $ à Québec. L'écart de coût entre les deux provinces est particulièrement important dans le cas du logement locatif. En octobre 2017, le loyer moyen des appartements en location était de 64 à 70 plus élevé à Toronto qu'à Québec ou Montréal. Comparaison là, avec des vrais chiffres, combien pour les logements à Toronto, un logement moyen, on ne dit pas qu'est-ce que ça représente au juste, on dit juste un logement moyen. À Toronto, c'est 1300 $ par mois. À Montréal, c'est 766 $ À Ottawa, en Ontario, c'était 1113, comparant avec Québec, c'est 793. Et pour le reste de l'Ontario, c'est 999 pour un loyer moyen. Le reste du Québec, c'est 682. Alors, il y a une grosse différence. De même, le coût pour exploiter un logement dont on est propriétaire, intérêt hypothécaire, dépréciation, impôts fonciers, assurance et réparations inclus, électricité et chauffage exclus, était 44 % plus élevé à Toronto qu'à Montréal. Et ce n'est pas seulement l'exubérance récente des prix de l'immobilier torontois qui est à l'origine de la situation. Cela fait des décennies que le logement coûte beaucoup plus cher à Toronto qu'à Montréal ou Québec. Là, on ne parle pas de Vancouver. Alors, ça a l'air que c'est astronomique dans ce coin-là. Pourquoi se loger coûte-t-il tellement moins cher au Québec? On dit souvent que c'est parce que le Québec est plus pauvre que l'Ontario. Cette explication ne tient pas la route. Le pouvoir d'achat moyen d'un ménage ontarien, après impôts et prise en compte du coût de la vie, est supérieur d'à peine 3 ou 4 % à celui de son voisin québécois. Cela ne rend pas compte de l'excédent stratosphérique du coût du logement à Toronto par rapport à celui de Montréal. Le coût des autres biens et services de consommation est, lui aussi, plus élevé à Toronto qu'à Montréal, mais seulement de 8 %. La vraie question est de savoir pourquoi la divergence de prix entre les deux métropoles est tellement plus prononcée depuis si longtemps dans le cas du logement que dans celui des autres biens et services. L'ancien ministre fédéral, feu Robert de Cotterêts, m'a un jour fourni la réponse sans détour. Le marché du logement à Toronto est dominé par un petit nombre de grands propriétaires, alors qu'à l'inverse, celui de Montréal met en concurrence un grand nombre de petits propriétaires. Quand il dirigeait la prévision économique au Conference Board du Canada, de Cotterêts m'a dit « Pierre, si je veux prévoir ce qui va se passer dans l'immobilier à Toronto au cours des 6 prochains mois, c'est simple, je n'ai qu'à faire 4 ou 5 appels et je sais tout. Par contre, à Montréal, c'est impossible. Il y a trop d'acteurs. Je dois m'y prendre autrement. Le problème n'est pas que Montréal est plus pauvre, mais que la propriété immobilière à Toronto est extrêmement concentrée. Le consommateur torontois en paie le prix. La concentration monopolistique à Toronto est maintenue par un régime réglementaire de l'habitation qui est restrictif et coûteux. Il concerne des éléments comme la longueur et la variabilité des délais d'approbation des chantiers, la lourdeur des frais gouvernementaux, la gestion du zonage et les relations avec les conseils municipaux et la collectivité. Des règlements, il en faut. Mais s'ils sont limitatifs à l'excès, une expansion de la demande de logement se traduira bien plus par une augmentation du prix que par un accroissement de l'offre. Au contraire, si le régime reste suffisamment ouvert et flexible, l'offre tend à bien répondre à la demande accrue à prix raisonnable. Un régime réglementaire, contraignant et coûteux comme celui de Toronto, favorise la domination des grands entrepreneurs aux poches profondes qui ont les moyens de payer les lourds frais gouvernementaux qu'ils sont capables d'attendre et qui peuvent se payer les services des avocats et des négociateurs les plus habiles. Ces grands entrepreneurs ont ensuite tout intérêt à militer pour les changements réglementaires limitant l'offre et confirmant les prix élevés. Cerise sur le gâteau, étant plus nombreux, ils rendent le marché plus vulnérable à la collusion et aux bulles spéculatives. La preuve scientifique que l'environnement réglementaire est passablement rigide et coûteux à Toronto et nettement plus flexible et abordable à Montréal repose sur des bases solides. Les analyses d'experts en économie urbaine, notamment celles du professeur Mario Polez de l'Institut national de la recherche scientifique, aboutissent toutes à cette conclusion. À Toronto, le régime favorise les gros entrepreneurs et les gros prix. À Montréal, les petits entrepreneurs et les petits prix. En matière d'habitation, Montréal et le Québec doivent garder le cap. Toronto et l'Ontario ont besoin d'un sérieux examen de conscience. L'examen de conscience est suggéré par Pierre Fortin. Il le fait dans l'actualité du mois d'avril. Ça surprend quand même.
Ça surprend parce qu'on avait l'impression que les salaires étaient beaucoup plus élevés à Toronto.
3 ou 4 % de plus, mais quand même.
Alors, comment les gens font?
Je ne sais pas.
Avec ils cohabitent, je pense. Hein? Ils
cohabitent. Possiblement.
Ouais. Merci beaucoup, Roger. Je vous reviens après la pause musicale avec un texte sur la santé mentale.
Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux. Mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? C'est
bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là, mais il est là. Le bonheur, il est là, il est là.
Et c'est Christophe Maé qui nous indiquait « Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? » Eh bien, le bonheur, il est là, pièce qui est parue en 2016, mais qui a connu un regain de popularité au Québec au cours des derniers mois avec le passage de Christophe Maé, notamment à l'émission En direct de l'Univers, ainsi que, selon ce qu'on m'informe hier à La Voix, on a pu entendre également cette pièce-là.
Effectivement. Avec l'original, d'ailleurs. Alors, petit texte que j'ai retrouvé. C'est un papier d'Isabelle Audet, en fait, sur lapresse.com, et qui se titre « Santé mentale, c'est la vie après la tempête ». Et elle écrit « Choc post-traumatique, anorexie, dépression, bipolarité, anxiété ». On en parle tout de suite après la musique. Il est où le bonheur? Ben, c'est le livre « Mes tempêtes intérieures ». L'auteur, Vanessa Beaulieu, aborde les problèmes de santé mentale à travers le parcours de 25 personnalités. Et pas question toutefois de sombrer. Elle souhaite au contraire démontrer au lecteur que même après les pires épreuves, le ciel se dégage. Je voulais montrer que même si on est malade, même si ça ne va pas, il y a toujours une voie positive, explique l'auteur. Au cours de la dernière année, elle a recueilli les confidences de Biz, Ingrid Falaise, entre autres, P.A. Méthode, Florence K., Jean-Marie Lapointe aussi, Saskia Thuot et une vingtaine d'autres personnes. Elles ont toutes dû surmonter à un ou plusieurs épisodes difficiles. C'est d'ailleurs parce qu'elle a elle-même vécu avec la maladie mentale que Vanessa Beaulieu s'est lancée dans ce projet. Mon frère est décédé quand j'avais 19 ans. Deux ans plus tard, mon père a fait un AVC. Puis il y a eu des séparations et des trucs de la vie. Et tout ça, accumulé, on dirait que ça a explosé. Raconte-t-elle. J'ai commencé à faire de l'anxiété. Et ça s'est transformé en crise de panique. Quand ça t'arrive et que tu n'as jamais vécu ça, tu te demandes ce qui se passe. Elle avait honte. Je m'enfonçais de plus en plus et une journée, je pensais que ça n'irait plus jamais bien. Quelqu'un l'a vu et il m'a reconduite à l'hôpital. Ça a été mon déclic. L'auteur et assistante réalisatrice au cinéma et à la télévision explique qu'avec une aide professionnelle, elle a réussi à surmonter un choc post-traumatique, un épuisement et la dépression. Elle ajoute toutefois que de lire sur le cheminement de personnes qui ont vécu des situations semblables peut être bénéfique, d'où la rédaction de « Mes tempêtes intérieures ». Ce qui ressort du livre, c'est que ce n'est pas parce que tu as certains obstacles dans la tête que tu ne peux pas faire quelque chose de ta vie. Par exemple, il y a dans le livre une entrevue avec une femme qui a été agressée dans l'armée et qui a eu un choc post-traumatique. Et Linda, c'est la personne la plus drôle que je connaisse. C'est sûr qu'il y a des moments plus difficiles, mais elle peut être tellement pétillante aussi. Même si certaines histoires sont difficiles à lire, ça finit presque toujours de manière positive. Et j'ai retiré trois artistes, tout simplement, du livre, où est-ce qu'il y a en premier lieu Florence K, qui est auteure, compositrice et interprète, et elle écrit Apprendre que j'étais malade m'a fait tomber d'encore plus haut, car j'avais honte. Me sentir comme une loser a empiré ma dépression. Je me sentais coupable d'être malade parce que la société ne valorise pas ça. C'est un sujet tabou. C'est être une personne faible. Je ne voulais pas être cette personne. Il y a tellement de choses que j'ai apprises avec cette expérience. Premièrement, il faut arrêter de dissocier bonheur et maladie mentale. Ce n'est pas vrai que ces deux mots sont en opposition. En général, je suis heureuse. Un autre qui est plongeur, en fait, François Imbeau-Dulac, qui écrit « Ne pas manger me donnait le sentiment que j'étais capable de finalement gérer quelque chose dans ma vie. Je me sentais mieux parce que j'avais un pouvoir sur mon poids, sur mon apparence. Je sais maintenant que ce n'est pas normal. On dit souvent qu'un garçon, c'est tellement orgueilleux qu'il ne peut pas parler de ces choses-là. Moi, je dis ceci. Peu importe ton sexe, peu importe le problème que tu as, si tu souffres, mets ton orgueil de côté, puis ose parler. » Et finalement, une animatrice et actrice, Véronique Bannon, qui dit « J'ai appris que je suis ma pire ennemie parce que je me juge tellement trop. Je ne suis jamais assez bien. Je dois apprendre à m'aimer comme je suis et à me respecter. Lorsqu'il y a des moments de rechute, tu ne dois pas avoir honte ni te taper sur la tête. Il faut aller de nouveau chercher de l'aide. Tu ne dois pas te laisser atteindre par les jugements des autres, même s'ils te disent que tu as tout pour être heureuse. » Alors voilà trois témoignages de ce livre, en fait, qui est écrit par Vanessa Beaulieu, et c'est un papier que j'ai retrouvé dans lapresse.com, un papier d'Isabelle Audet, très, très intéressant. Alors, deuxième partie de l'émission qui s'en vient dans quelques instants, et on débutera le tout avec Roger, hein, s'il veut bien.
Oui, oui.
Oui, oui, tout à fait. Oui. Ici, à tantôt.
Samedi à midi.
Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau en vert et blanc. D'une élégance rare et plus fort que les peines pour les trop. Femme, on n'achète pas.
Nouvel extrait de la chanteuse Berise qui reprenait ici « Si j'étais un homme », cette pièce de Diane Tell.
Quelle magnifique reprise quand même. Roger,
oui.
Alors on parle d'Internet.
Oui, est-ce qu'on doit le nationaliser? C'est un texte que j'ai trouvé dans la revue Relations du mois d'avril et il est signé ce texte par Luc Lefebvre. Internet est désormais un élément central de l'organisation de nos sociétés. Toutefois, dans un pays aussi vaste et peu peuplé que le Canada, certaines régions et populations encore ont encore un accès limité à ce service. Est-ce que sa nationalisation serait une solution à ce problème? Et est-ce que la nationalisation pourrait servir de rempart contre l'accaparement du réseau des réseaux par les multinationales du Web? Au cours des derniers mois, l'idée de tranquillement refait surface dans les cercles politiques et technologiques. Aux États-Unis, la décision de la Federal Communications Commission de renoncer au principe de la neutralité du net et de permettre des voies rapides aux entreprises et aux utilisateurs qui paieraient plus a certainement contribué à remettre cette vieille question de la nationalisation à l'ordre du jour. Au Canada, le gouvernement Trudeau s'est vu obligé de réitérer sa position en faveur de la neutralité afin de rassurer plusieurs citoyens et organismes de défense des droits. Malgré tout, l'idée de la nationalisation reste dans l'air. Or, pour éviter l'accaparement du net par les grandes firmes privées, les multinationales du Web, doit-on nécessairement le nationaliser? Le spectre des solutions est-il plus large? Pour répondre à ces questions, rappelons d'abord deux des principaux constats sur lesquels repose l'idée de la nationalisation d'Internet. Le premier constat est que les membres de l'oligopole technologique actuel, les grandes firmes comme Bell, Rogers, TELUS et Vidéotron, semble incapable d'offrir un service à coût raisonnable sur l'ensemble du territoire. Le second constat est qu'il est difficile pour les petites et moyennes entreprises de télécommunications de rejoindre le marché, que ce soit en créant leur propre réseau, ce qui est très coûteux, ou en fournissant un accès à meilleur prix à un réseau existant. Alors, devant cette situation, que faire? En ce qui concerne le premier constat évoqué, malgré des limites indéniables dans la couverture haute vitesse et le coût élevé de celle-ci au Canada, la situation n'est pas immuable ni dramatique. La très grande majorité de la population canadienne a accès à Internet haute vitesse sous une forme ou une autre, selon les données du CRTC. Cette situation a été rendue possible grâce à des investissements publics, certes, mais surtout privés, ce qui fait dire que nous ne sommes pas dans une situation de socialisation des pertes et de privatisation des profits qui justifierait une nationalisation. Cela dit, des changements sont nécessaires pour augmenter l'accessibilité et réduire les coûts. Une partie de la solution se trouve dans une meilleure supervision des activités des grandes firmes de télécommunications, en ouvrant et en facilitant l'accès à leurs infrastructures à d'autres types d'entreprises dont le but n'est pas la recherche de profit à tout prix. Je pense notamment aux entreprises sociales dont les modèles d'affaires, plus souples et plus humains, permettent souvent d'offrir des services à peu de frais à des populations vivant dans des zones moins accessibles. La coopérative de solidarité ZAP, qui cherche à étendre et bonifier l'accès à Internet sans fil au Québec, en est un bon exemple. Quant au second constat, un accès trop restreint au marché pour les petites et moyennes entreprises, force est de constater qu'il ne nécessite pas de nationaliser les infrastructures et les fournisseurs d'accès Internet. Il existe de plus en plus de petits fournisseurs d'accès à Internet indépendants, comme eBox au Québec et en Ontario, dont la modernisation du CRTC, à cet égard, favorisera l'apparition. Aussi, une partie de la solution se trouve probablement encore dans une meilleure réglementation. L'État, sans nécessairement financer directement le développement des petites et moyennes entreprises de télécommunications, à même les seuls fonds publics, doit trouver des manières d'augmenter et de diversifier l'offre. Cela peut se faire à travers le CRTC qui pourrait obliger les grandes entreprises à réinvestir une partie de leurs profits dans un fonds commun pour soutenir les plus petites entreprises du milieu. On pourrait aussi exiger aux fournisseurs d'accès à Internet qu'ils garantissent un accès abordable à Internet haute vitesse à certaines populations en zone éloignée, en s'inspirant de la stratégie de la Ville de Montréal qui exige des promoteurs immobiliers qu'ils construisent des logements abordables dans leurs nouveaux projets. Pour terminer, il est également important de souligner la question de la surveillance et du contrôle étatique. À la lumière des révélations d'Edward Snowden sur les dizaines de programmes d'espionnage menés par les agences de renseignement, entre autres au Canada et aux États-Unis, et d'initiatives liberticides contre la liberté, donc menées par des États sous couvert de cybersécurité, tout semble indiquer que si Internet est placé sous contrôle étatique, celui-ci sera beaucoup plus vulnérable aux intrusions de l'État qu'il ne l'est déjà. Les enjeux démocratiques de respect de la vie privée sont à ce sens nettement plus importants et plus lourds de conséquences que ceux de l'accessibilité au réseau. En conclusion, la nationalisation d'Internet serait une réponse radicale à des problèmes relativement bénins. Bien qu'il y ait place à l'amélioration, les enjeux actuels en lien avec Internet au Canada peuvent être réglés de multiples manières sans avoir à céder à l'État le contrôle total du réseau. Alors la réponse de Luc Lefebvre est claire, il ne faut pas nécessairement nationaliser Internet, il faut plutôt réglementer à l'aide du CRTC, procurer un meilleur accès à des petits fournisseurs de services et comme ça, et surtout éviter que le problème, ce serait si c'était nationalisé, c'est que l'État pourrait mettre ses grands pieds dans le service et
contre.
Le Big Brother
sera
encore
éviter plus... les monopoles, c'est ça. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Roger. On va revenir avec Serge qui nous parle de crème. Alors, Serge, les crèmes, les meilleures crèmes.
Oui, les crèmes. Quelle crème voulez-vous mettre dans votre figure? Oh là 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 là. Si vous allez chez Dolorama, c'est pas évident. Vous ne savez pas ce qu'il y a là-dedans. Oh, là. Alors, la revue Protégez-vous, heureusement, a fait des tests sur 387 sortes de crèmes. Seulement. 387 sortes de crèmes. En voulez-vous des crèmes? Il y en a. Mais quelle est la crème de la crème? Ah ah! À peine 7% des produits évalués ne renferment pas de substances potentiellement néfastes pour la santé et l'environnement, et on va voir lesquelles. Au sortir de la douche, chaque matin, vous appliquez une crème pour réhydrater votre peau. Et ce geste est presque devenu machinal. Mais savez-vous vraiment ce que contient votre petit pot miracle? Alors, depuis le début des années 2010, des organismes de défense de l'environnement comme la Fondation David Suzuki au Canada et l'Environmental Working Group aux États-Unis ciblent des substances qui ne devraient pas figurer dans les cosmétiques, soulevant l'inquiétude des consommateurs. c'est que les ingrédients mis au banc des accusés sont soupçonnés de perturber votre système hormonal, de favoriser le développement de cancers, de déclencher des réactions cutanées ou de s'accumuler dans la nature, notamment lorsque vous rincez vos mains et votre visage à l'eau. Mais, à moins d'être chimiste ou dermatologue, comment savoir quelles substances ont ces effets? Alors, pour nous aider à repérer ces substances, on a mené une grande enquête au cours de laquelle on a décortiqué les listes d'ingrédients de 387 crèmes hydratantes pour le visage vendues dans les pharmacies, les grands magasins et les commerces d'aliments naturels. On a exclu de l'enquête les sérums, les produits de nuit ainsi que les produits anti-âge. Au final, seuls 29 produits sont recommandés. Sur 387. Alors, ce sont ceux qui correspondent à nos critères parce qu'ils ne contiennent aucune substance montrée du doigt comme potentiellement dangereuse. Les sources, la réglementation en vigueur au Canada et dans l'Union européenne, les données scientifiques les plus récentes ainsi que les travaux et publications de grands groupes dont le Centre international de recherche sur le cancer et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en France. On a aussi consulté des chimistes et des dermatologues québécois. La bonne nouvelle, c'est que plusieurs de nos meilleurs choix se trouvent aisément en magasin et ne coûtent pas une fortune. Je vous dirai lesquels tantôt. Ça va? Alors, on y va. Comment choisir une bonne crème pour le visage? D'abord, il faut tenir compte de votre âge. Votre peau perd une partie de son élasticité en vieillissant. Prenez aussi en considération votre type de peau. Une crème pour peau grasse n'aura pas l'effet escompté si la vôtre est plutôt sèche. Ainsi, trouver le produit idéal pour vous exigera peut-être quelques essais, souligne d'entrée de jeu le dermatologue Denis Sasseville, directeur de la clinique des dermatites de contact au Centre universitaire de santé McGill. En plus de correspondre à vos besoins, une crème, ça doit être sécuritaire. Étant donné les doses minimes qui sont utilisées dans les crèmes, aucun ingrédient indésirable ne représente de risque pour la santé, mais lorsqu'il y a des solutions de rechange moins toxiques, il est préférable d'éviter les substances qui soulèvent des doutes, indique le chimiste Normand Voyer, qui a mis sur pied le programme de baccalauréat en chimie cosmétique à l'Université Laval. Et c'est d'ailleurs ce principe de précaution que Protégez-vous a appliqué dans l'établissement de ses critères de recommandation. Et selon le Dr Sasseville, les allergies et les réactions cutanées sont les effets secondaires à court terme les plus fréquents provoqués par les crèmes. Elles touchent environ 1% des utilisateurs. Et pour minimiser les risques, mieux vaut opter pour des produits qui ne contiennent aucun composé indésirable. Okay? L'effet cocktail. Parmi les substances qui sont pointées comme étant indésirables, les parabènes sont souvent cités en raison de leur capacité à interférer avec le système hormonal humain. C'est ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Et on en a trouvé dans 19% des crèmes qu'on a évaluées. On a aussi remarqué que la plupart du temps, un parabène ne vient pas seul. Oh non, celui qu'on a vu le plus souvent en... Le méthylparabène, considéré comme à risque modéré, est régulièrement associé au propylparabène, classé à risque élevé. Alors, regardez sur les peaux de vos crèmes si vous n'avez pas de propylparabène ou de méthylparabène. Okay? La combinaison de ces deux parabènes se retrouve dans 34 produits du test, dont l'hydratant ultra-apaisant de L'Oréal Paris, et le soin comblant réhydratant 24 heures de la roche posée, vendu dans de nombreuses pharmacies. C'est bon. Certains experts craignent que le mélange de plusieurs parabènes ou de plusieurs ingrédients problématiques augmente le risque d'effets nocifs sur la santé, même si la quantité de chaque composé reste en deçà des limites autorisées. Yves Langteau, chimiste et conseiller en cosmétique, croit qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Les doses sécuritaires fixées par Santé Canada tiennent compte du fait qu'un cosmétique peut contenir plus d'un de ces ingrédients. Elles ne prennent cependant pas en considération le nombre de produits cosmétiques que vous utilisez. Savon, crème, sérum, maquillage, souligne pour sa part Louise Hénault-Étier, chef de projet scientifique à la Fondation David Suzuki. Elle suggère d'ailleurs de limiter le nombre de produits que vous utilisez quotidiennement et qui peuvent contenir des perturbateurs endocriniens ou des irritants cutanés. Alors, c'est l'heure. C'est l'heure de savoir quelle crème est la meilleure.
Oui.
Oh là 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 là. Alors, imaginez-vous donc que... C'est pas donné, hein?
On finit toujours par parler de prix, hein?
La meilleure ici... Ben, il y en a 29 bonnes, là, OK, là? Uh-huh. Et je vais vous donner la moins chère, OK? Mais je vais vous donner, mettons, la plus chère, OK? Alors, pour un petit pot de 30 millilitres, on appelle ça des crèmes de jour à la rose du docteur Oshka. Ça, là, à chaque fois que vous mettez de la crème dans votre figure, ça vous coûte 8,33 $.
Quand même.
Aïe, aïe. OK? Aïe, aïe. OK. Et ça se situe à 2,40 $, 3 $, 1,67 $, 5 $. Alors, vous avez la Acure for Your Skin à 2,40 $. Andalou Naturel. Ça, c'est pas le prix du pot. Là. Le pot, c'est 24 $, hein? Ou 30 $. Mais c'est quand vous en appliquez, là. Mm-hmm. Mm-hmm. Ensuite, un pot de 150 millilitres, 1,67 $. Alors, on va aller au moins cher, OK? Et tout le monde la connaît, celle-là. Oui, oui, tout le monde la connaît et tout le monde va se ruer. Là, il n'en restera plus après l'émission, là. Alors, dépêchez-vous d'aller courir chez Maxi ou Proxime. On la trouve là, là. Attention, à 23 cents.
Ah! Aha. Par application.
Ouais, genre. OK? Je ne sais pas comment épais vous en mettez, là. Ouais. Mais mettez-en pas trop épais, ça va peut-être coûter juste 10 cents. Attention. Pour un pot de 150 millilitres que vous allez payer 7 $ en vente chez Proxime, Maxi, etc., là, Walmart même, eh bien,
c'est quoi?
C'est là. Essayez de trouver un nom. Essayez. C'est la Nivea.
Non.
Oui. Oh, non. On la connaissait, celle-là.
Jean-Sébastien semblait la connaître. C'est vrai qu'il a une belle peau, hein?
Ah ben oui. Il l'utilise depuis qu'il est au monde. C'est sa mère, d'ailleurs, qui a commencé. Puis à part de ça, bon, à 79 cents, vous avez The Green Beaver. Alors, on passe de 23 cents à 79 cents, The Green Beaver. Puis à part de ça, 79 cents, 97 cents, Neutrogena, on entend parler. Alors,
donc, on entend que la Nivea, c'est à peu près le même.
Alors, la Nivea, ça sera la Nivea, elle fait partie des 29 bonnes, là, sans ci et sans cela dedans. OK?
Alors, ce qu'il faut retenir, c'est de trouver la bonne crème pour nous. Hein? Il faut faire des tests.
Ouais.
Et ensuite de ça, vous finissez avec la Nivea de toute façon. C'est la moins chère. Je vous reviens dans quelques instants avec un texte sur la rougeole. C'est dans l'actualité du mois de mai que j'ai retrouvé ça. C'est un papier du docteur Alain Vadeboncœur. Et imaginez-vous qu'il y a une alerte à la rougeole qui vient juste d'être lancée à Montréal. Mais on dit pourquoi cette maladie, pratiquement éliminée de nos régions, survient-elle encore de temps à autre? Périodiquement, les alertes à la rougeole frappent fort dans nos médias. Avec raison, puisque cette maladie très contagieuse comporte son lot de complications. En février dernier, un bébé souffrant de rougeole avait été identifié dans un vol de Air Canada et une alerte avait alors été lancée. La confirmation récente d'un cas à Montréal et de 3 cas potentiels dans la dernière semaine d'avril a donc suscité une autre alerte lancée tout récemment par les autorités de santé publique. Il s'agissait de personnes arrivant à Montréal depuis la Roumanie qui auraient fréquenté un centre d'hébergement et un organisme d'aide pour demandeurs d'asile. La rougeole, par contre, demeure toutefois une maladie rare chez nous, puisque dans nos populations, la plupart des gens sont vaccinés. Les éclosions locales proviennent surtout de personnes ayant contracté la rougeole dans d'autres pays et qui transportent le virus avec elles. c'est que dans ces régions du pays d'Europe, entre autres, comme dans plusieurs coins du monde, les éclosions de rougeole sont actuellement très fréquentes. Tout cela est en lien direct avec de plus faibles taux de vaccination de la population. Actuellement, 2 doses de vaccin sont recommandées par les autorités de santé publique du Canada et on considère qu'il est très difficile pour la rougeole de pénétrer un territoire lorsque 95 % des gens sont bien vaccinés. En effet, comme le vaccin contre la rougeole est particulièrement efficace, le virus peut difficilement se propager même s'il subsiste un certain nombre de personnes non vaccinées puisqu'il ne trouve pas de terrain suffisamment pour favoriser son éclosion. Or, en Europe, seuls 7 des 29 pays européens ont atteint 95 % de vaccination en 2017, de sorte que l'Union européenne a connu 4 600 cas, dont 37 décès en 2017, ce qui représente 3 fois plus de cas qu'en 2016. Il s'agit de la plus forte épidémie de rougeole depuis 2011. Parmi les pays en tête de ce triste record, on note la Roumanie, il y a l'Italie aussi, la Grèce et l'Allemagne. La France arrivait alors en 5e position avec 339 cas. Toutefois, on rapporte une hausse importante des cas de rougeole en France cette année. On y a dénombré plus de 1700 cas, ce qui pourrait conduire à une année record. Près de 9 de ces personnes sur 10 contractant la rougeole ne sont pas vaccinées. On les retrouve souvent parmi les immigrants récents, provenant de pays avec un taux de vaccination encore plus bas, ou encore de communautés spécifiques où on s'oppose à la vaccination. Au Québec, où le taux de vaccination complète, 2 doses est de l'ordre de 90 %. On se souvient par exemple de l'éclosion de rougeole dans une communauté dans la région de Joliette qui rejetait le principe de la vaccination. La rougeole est un problème grave qui entraîne, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ plus de 2 millions de décès chaque année dans le monde. Et il s'agit surtout d'une des principales causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans à travers le monde. Fort heureusement, la vaccination contre le virus a progressé en raison des campagnes menées ces dernières décennies, le taux de vaccination étant passé de 72 à 85 % en 2016. Le nombre de décès par la rougeole a en conséquence chuté de 84 % entre 2000 et 2016. Cela permet à l'OMS d'affirmer qu'environ 20 millions de vies ont été sauvées depuis l'an 2000 quand même. Et à quoi ressemble la rougeole? Voilà, je vous le dis. La maladie se caractérise par une forte fièvre, un écoulement nasal, une toux, des yeux rougis, genre conjonctivite, et un malaise généralisé. Le vrai problème du virus de la rougeole, c'est son haut taux de contagion, puisque jusqu'à 4 jours avant l'apparition des rougeurs caractéristiques, la personne peut être contagieuse et elle demeure contagieuse aussi 4 jours après leur apparition. Une personne peut en infecter en moyenne 16 autres, mais lorsqu'on est en contact avec une personne ayant la rougeole, on est généralement bien protégé à plus de 90 % par le vaccin déjà reçu. Au-delà du risque d'attraper la rougeole, qui demeure assez limité en raison du faible nombre de cas, ces alertes contribuent à nous faire réfléchir périodiquement à l'importance de maintenir un taux de vaccination élevé dans la population, à maintenir à jour son calendrier de vaccination et aussi à lutter contre les fausses informations véhiculées sur les vaccins, contre lesquelles il n'existe malheureusement pas de vaccin à ce jour. Parce qu'il faut toujours garder son esprit critique, véhiculer n'importe quelle sottise à ce propos, comme fit le docteur Wakefield en 1997, ne peut que miner ses stratégies globales de lutte contre la rougeole et d'autres maladies, parmi les plus efficaces développées au cours du dernier siècle, et qui sauvent des millions de vies chaque année. Qui sait? Peut-être un jour, ce sera la vôtre. Alors voilà, c'est ce texte que j'ai trouvé dans l'actualité du mois de mai, qui est du docteur Alain Vadeboncœur. Eh bien voilà, c'est tout pour nous. Il nous reste quelques secondes pour saluer Roger Roy. Merci beaucoup d'avoir été là.
Ça m'a fait plaisir.
Merci à Serge Hamelin. Oui, à travers la circulation quand même. Merci à Serge Hamelin.
Oui, c'est un plaisir.
Merci à Jean-Sébastien. La liberté de l'autre côté de la vitre, qui nous guide cette émission d'une main de maître, il faut le dire. N'oubliez pas, cette émission est en reprise durant la journée Et restez à l'écoute surtout parce qu'il y a l'émission Le quotidien des quotidiens qui s'en vient dans quelques instants. Et pour avoir l'horaire complet du Canal M, allez sur le www.canalm.vusezvoix.com. Bonne semaine à tous.